I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et vous en avez pris l'habitude dans ce mondial. Quand le FC Stream Team n'est pas là, on fait le tour du globe pour vous évoquer toutes les nations encore en lice. Évidemment, numéro très chargé ce lundi, puisque nous commencerons par débriefer l'élimination de l'Angleterre avec Philippe Auclair, qui nous expliquera comment nos voisins anglais voient désormais l'équipe de France. On enchaînera ensuite avec les qualifiés pour les demi-finales. On parlera de l'Argentine en long, en large et en travers avec Thomas Goubin, et notamment d'une certaine maradonisation de Lionel Messi. On enchaînera avec la Croatie, petit pays encore invité à la fête du dernier carré. Anna Caro essayera de nous expliquer la recette secrète de ces Croates. Et on terminera enfin par le Maroc, les forces et faiblesses de l'adversaire des Bleus en demi-finale. Elton Mokolo nous expliquera tout ça. Vous connaissez aussi le dicton, le FC Stream Team et Tour du Monde sont à retrouver sur la page Eurosport FC sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous retrouverez également Mercredi Mercato dès le mois de janvier. Donc abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, le numéro est chargé. Alors Tour du Monde, c'est parti. Dans Tour du Monde, on s'envole pour l'Angleterre, retrouver Philippe Auclair, notre correspondant et spécialiste du football anglais. Les Three Lions sont donc éliminés de cette Coupe du Monde, battus samedi par l'équipe de France dans un quart de finale au couteau. Philippe, la question, la toute première, elle est toute simple. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui en Angleterre autour de cette équipe anglaise ?
Je pense que j'utiliserai deux mots, si vous voulez résumer ça. Ça serait regret et fierté.
Ouais.
Les regrets, c'est bien évidemment à cause de la physionomie du match. C'est le fait que l'Angleterre a trouvé un nouveau moyen de perdre au tir au but, en l'occurrence, avec le pauvre Harry Kane. C'est le fait qu'on a vu une équipe d'Angleterre qui, pour une fois, ne s'est pas recroquevillée, n'est pas rentrée dans sa coquille. Que Gareth Southgate a été fidèle à ce qu'il avait dit, à savoir qu'on a vu une équipe d'Angleterre entreprenante, dynamique, au moins à partir, on va dire, de la 20-25e minute à peu près,
ouais.
Qu'on a vu une équipe d'Angleterre parfois dominatrice, qui a posé des problèmes à l'équipe de France là où on pensait qu'elle poserait des problèmes, sur les flancs et en particulier sur celui de Lucas Hernandez, qui ne s'est jamais, qui n'a jamais baissé les bras, qui a continué, avec des performances individuelles de très très grande classe aussi.
Ouais.
Et puis donc, à cause de ça, évidemment, énormément de regrets. Et puis de la fierté, pour les mêmes raisons, en l'occurrence. Parce que, pour une fois, l'Angleterre ne sort pas d'un tournoi par la petite porte. On se souvient du match contre la Croatie en 2018, quand l'Angleterre mène 1-0. On se souvient du match contre l'Italie, où encore une fois, elle mène 1-0 par ce but de Luke Shaw. Et que, petit à petit, la peur de gagner l'emporte. Là, on n'a pas du tout eu ce type de match de la part de l'Angleterre. On a eu une Angleterre... Je me répéterai en disant cela, hein. Une Angleterre une fois de plus entreprenante qui a joué crânement sa chance, et tout le monde reconnaît que ça s'est joué sur quoi ? Sur rien,
ouais,
sur le fait sur que le football c'est le chaos, et que, comme le dit Roy Hodgson, les matchs ça dure 90 minutes, mais ça se décide le plus souvent en une fraction de seconde. Et là on en a eu une magnifique illustration, donc on va bien évidemment avoir des gens, quelques personnes en particulier dans le microcosme, des réseaux sociaux qui vont trouver le moyen de pourfendre la performance des Anglais, mais ceux-là sont une infime minorité. Quand je regardais la presse ce matin, quand j'écoutais également les analystes à la radio, à la télévision, et même également sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des gens disent tous oui, bon ben voilà. Et on est tombé sur une équipe de France qui, elle, et d'un autre type, qui est
Ouais.
une équipe de grand tournoi qui l'a prouvé une fois de plus.
On va revenir au bleu. Moi, je voulais t'interroger peut-être sur la classe de ces Anglais aussi dans l'après-match. C'est-à-dire que on le sait et on l'a vu, il y a eu une démonstration parfaite avec Pep après l'élimination du Portugal face au Maroc, qui a pointé du doigt l'arbitrage en expliquant qu'il ne devait pas être arbitré par des Argentins. Il n'y a pas eu du tout eu cette tonalité-là chez les Anglais.
Non.
Alors, Gary Neville en a parlé, mais ça reste très minoritaire. Et surtout dans l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, pardon, s'est refusé à commenter ça. Declan Rice a dit, il y a eu des décisions qui nous ont énervés, mais c'est pas sur ça que ça joue. L'arbitrage n'est pas du tout invoqué comme une des raisons, de la défaite anglaise.
Non, et c'est à l'image de ce que cette sélection anglaise est devenue avec Gareth Southgate,
Ouais.
une sélection qu'il est très facile d'aimer pour son jeu, sa jeunesse. Mais aussi pour son attitude en dehors du terrain, autant que sur le terrain. C'est un changement de culture absolument total et dont le crédit doit être porté à Gareth Southgate.
Ouais.
Il a créé une équipe à son image, avec des joueurs qui sont matures, jeunes mais matures, mesurés, équilibrés, passionnés, mais qui savent faire la part des choses et bon, qui ont montré énormément de. Fair play est un mot à l'origine anglais.
Ouais.
Mais dont ils n'ont pas toujours été les plus grands démonstrateurs, on va dire, dans le passé. Là, ça n'est pas le cas. Cette équipe d'Angleterre a beaucoup de classe. C'est la classe de Jude Bellingham sur le terrain. C'est aussi la classe de Gareth Southgate lorsqu'il s'adresse aux médias après. Je ne cherche pas de fausses excuses. C'est pas son type. Et on aimerait beaucoup d'autres en prennent de la graine. Je ne suis pas certain que de ce côté-là, ça soit partie gagnée.
Non,
Mais en
ça
tout
c'est
cas, c'est
sûr.
vrai. Beaucoup, énormément de dignité. Je crois que cette dignité dans la défaite, d'ailleurs, aide. Les Anglais à retirer encore plus de fierté de ce qu'ils ont accompli sur le terrain, parce que je crois que s'il y a une chose sur laquelle nous sommes absolument tous d'accord, c'est que s'il y a une équipe qui a dominé cette rencontre, s'il y a
C'est
une équipe
l'Angleterre,
qui a été plus dangereuse que l'autre, c'est
évidemment.
l'Angleterre, absolument,
Et
absolument.
quel est l'avenir de Gareth Southgate? Parce que là aussi, il n'a pas voulu épiloguer là-dessus en conférence de presse. C'était peut-être pas le moment. On
Non.
va rappeler ici depuis. Il a récupéré une sélection éliminée à l'Euro piteusement. Il en a
Par
fait
l'Islande.
par l'Islande. Il en a fait une demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, une finaliste de l'Euro 2021, un quart de finaliste dans cette Coupe du Monde éliminée par l'équipe de France. On a l'impression que c'est un petit peu la tonalité aussi chez les médias anglais. C'est une équipe qui grandit. Il lui manque encore ce petit quelque chose pour devenir un peu cette équipe de France létale et clinique dans les moments cruciaux. Il n'empêche, on voit mal comment l'Angleterre pourrait trouver un meilleur sélectionneur actuellement que Gareth Southgate.
Je n'en vois pas et je crois que personne n'en voit en ce moment. Donc la décision sera prise par Gareth Southgate lui-même. La
D'accord.
FA veut évidemment qu'il demeure en place. Quand on voit également le lien émotionnel, affectif, mais aussi le lien de respect qui s'est lié entre ces jeunes joueurs et Gareth Southgate, qui connaît beaucoup d'entre eux d'ailleurs depuis qu'ils sont des U16 et U17, puisqu'ils s'occupaient, n'oublions pas, des équipes de jeunes de l'Angleterre avant de prendre le relais de Sam Allardyce, une autre époque, hein.
Ouais.
Donc, je pense que du côté de la FA, du côté des joueurs et du côté de l'immense majorité des supporters de l'équipe d'Angleterre, il n'y a qu'un souhait, un désir, c'est que Gareth Southgate puisse continuer. C'est une équipe très jeune, lui-même est encore jeune pour un sélectionneur. Vous regardez la moyenne d'âge de cette équipe d'Angleterre, vous voyez que c'est des joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Jude Bellingham a 19 ans. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas vus et qui sont là. James Maddison était là.
Notamment, ouais.
Oui, Conor Gallagher. Il y en a beaucoup d'autres qui sont là, qui te demandent qu'il y a une chose qui frappe déjà à la porte. Donc, ce serait absurde pour l'Angleterre de se priver de Gareth Southgate. Là, maintenant, c'est simplement à lui de pouvoir décanter en quelque sorte les leçons de ce mondial et se poser la question, est-ce que je peux mener cette Angleterre plus loin? J'ai absolument aucun doute en ce qui me concerne que la réponse à cela sera oui. Et que maintenant, prochain objectif, l'Euro.
Ouais.
L'Euro 2024. Et avec une équipe d'Angleterre, alors là, cette fois-ci, tous ces joueurs seront au top de leur carrière. Et ils seront de nouveau parmi les équipes à battre. Ils ont vraiment pas eu de bol. Tomber sur l'équipe de France, c'est jamais un coup de bol dans les grands tournois. Sauf quand on est la Suisse, hein. Mais
Ouais.
disons il va falloir maintenant ce déclic. Mais ce déclic qui n'arrive que d'une seule façon, c'est en gagnant. Et c'est ça le problème. Et cela dit, dans une équipe, on a 32, il y a 31 échecs
Bien
pour
sûr,
un
pour
triomphe.
un seul élu.
Et je pense que les Anglais, l'opinion anglaise, on devient consciente.
Ok.
Elle se rend compte que maintenant, l'Angleterre a assuré sa place dans, on va dire, allez, entre le top 4 et le top 8, je pense le top 4 peut-être, dans le football mondial, au vu de ses résultats dans les grandes compétitions. Et c'est un magnifique tremplin. Et c'est un tremplin, encore une fois, pour de jeunes plongeurs.
Tu parlais du moment de bascule, ce moment, les Bleus l'ont connu. J'aimerais bien savoir aussi ce qui se dit désormais autour de cette équipe de France en Angleterre. On en avait brièvement touché un mot dans le dernier numéro. Tu nous expliquais qu'il y avait une fascination pour le Antoine Griezmann de l'équipe de France, qui n'a dû que faire grandir après ce quart de finale encore absolument éblouissant. Qu'est-ce qui se dit autour de ces Bleus? On sait que cet avant-match a été monopolisé par le duel Walker-Mbappé. Et finalement, les Bleus ont réussi à gagner sans Kylian Mbappé. J'imagine que ça a dû encore plus impressionner l'Angleterre.
Encore que cela, je pense que ça va faire partie du débrief dans les jours à venir.
Ok.
On met pas en avant le fait que l'Angleterre a réglé le problème Mbappé, entre guillemets, puisqu'ils l'ont fait pratiquement complètement. Par contre, ce que l'on met en exergue, c'est bien évidemment le rôle des patrons dans cette équipe de France. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se rendre compte que Hugo Loris n'est pas fini comme gardien et comme
Ouais.
capitaine, que c'est un homme des grands tournois. Il y a évidemment beaucoup d'affection pour Olivier Giroud et d'admiration pour Olivier Giroud, qui a fait un match à l'image de sa carrière.
Ouais.
Ça ne marchera pas la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais la cinquième, ça fera but. Et énormément d'admiration pour Olivier Giroud, qui évidemment est très aimé ici, hein. Je veux dire, personne n'a oublié son passage en première ligue. Et puis évidemment, des propos dithyrambiques sur Antoine Griezmann qui sont, à mon avis, totalement mérités. Et même si jamais j'échappe un petit peu à mes fonctions en disant cela, moi je te dirais qu'à d'un niveau personnel, je n'ai pas souvenir d'une performance en milieu de terrain d'un joueur français comme cela depuis très, très, très longtemps. Et en fait, je cherche dans ma mémoire, c'était une performance à la Platini en 84. C'était à ce niveau-là. Et l'Angleterre est émerveillée tout simplement par ce joueur et la façon dont il s'est réinventé. Et puis aussi par son sens du sacrifice et du don de
Ouais.
soi. Qui est tout simplement unique, qu'un joueur qui est un des plus grands buteurs de l'histoire de l'équipe de France, l'un des plus grands buteurs de l'histoire de la Liga, accepte de jouer en 4, 6, 8, 10 comme il le fait, en sachant pertinemment qu'il n'aura pas beaucoup d'occasions devant le but. Mais par contre, le centre qu'il met pour Giroud, c'est extraordinaire. Puis dans le travail qu'il a bas, la première période, il y a pas mal de stats qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux anglais, montrant les passes de Griezmann,
C'est dans
son
tous les sens,
rendement.
c'est parfait. Ouais.
C'est incroyable,
Ah
c'est la perfection dans les choix. Donc, et l'équipe de France, encore une fois, on en parle comme étant tout simplement une équipe de monstres. Que quand on est contre la France a cette culture du succès, la France a cette culture de la gagne. J'ai vu une comparaison j'ai trouvé assez juste et en même temps assez cruelle pour l'un de ses héros, c'est qu'on a comparé cette équipe de France au Real Madrid de Karim Benzema. À savoir que le Real est en difficulté, le Real semble en perdition, le Real gagne. Et gagne. Bon, cette année, c'était avec Karim Benzema, c'est pour ça que la comparaison est un petit peu cruelle.
Ouais. Mais il y a de ça.
Mais il y a de ça, il y a de ça. Et de ce côté-là, la France est maintenant. Alors, je dis ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est peut-être la malédiction, mais la France est grandissime favorite pour ce mondial aux yeux des Britanniques.
Et ben voilà, vous savez tout sur la perception autour de cette équipe d'Angleterre, mais surtout de ces Bleus qui sont donc encore en course. Ils affronteront le Maroc mercredi en demi-finale. Merci beaucoup Philippe, et nous, on va continuer notre tour du monde. Allez, on continue ce tour du monde pour atterrir en Amérique latine. On rejoint notre spécialiste Thomas Goubin. Salut Thomas, alors on va longuement parler de l'Argentine, qualifiée dans le dernier carré et qui est au rendez-vous qu'elle s'était fixée. Elle pensait potentiellement affronter le Brésil dans une demi, rêvée. Finalement, ce sera la Croatie. Alors on va d'abord toucher un tout petit mot, si tu le veux bien, de ce Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement pour le Brésil?
Salut Cyril, c'est ce que se demande un peu tout le pays. Et voilà, et le moment est à la recherche des coupables pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Ouais.
De manière vraiment très immédiate, les médias sont notamment focalisés sur l'action en fait, de la contre-attaque croate pour savoir comment le Brésil pouvait être pris à revers à ce moment-là du match, alors qu'ils semblaient avoir voilà, tout
Ouais, ils avaient fait le
simplement
plus dur.
beaucoup, ils avaient fait le plus dur. Et donc, on a eu des décryptages sur certains médias, image par image, pour essayer de, voilà, de voir ce qui, de comprendre ce qui s'était passé. Et on voit notamment que Fred, qui arrivait normalement pour solidifier
Ouais.
le milieu de terrain, fait un sprint en profondeur complètement incohérent, qui continue à presser ensuite après la perte de balle, près du poteau de corner croate. Et il y a une image très claire, on voit six joueurs brésiliens dans les 30 mètres croates à ce moment-là du match. Et après, on sait ce qui est arrivé.
Ouais.
Donc ça, on ne peut pas vraiment l'imputer à Tite, le sélectionneur. C'est plutôt une erreur vraiment des joueurs, quelque chose que ne pouvait pas contrôler le sélectionneur. Ce qui n'empêche pas que le sélectionneur a été extrêmement critiqué cette semaine au Brésil.
Alors j'imagine bien, mais on a envie de dire pourquoi? Parce que finalement, alors la Croatie a joué avec ses armes, elle avait peut-être un milieu de terrain plus dominant que celui du Brésil, et peut-être qu'on peut reprocher à Tite de ne pas avoir agi pour contrer l'efficacité de ce milieu de terrain porté par Luka Modric. Malgré tout, le Brésil est la meilleure équipe des deux, ou en tout cas produit le plus des deux, et surtout réussi par un éclair de Neymar à ouvrir le score. Donc ce qui est paradoxal, c'est ce que tu dis, c'est que cette équipe de Tite, qu'on a souvent louée pour sa ténacité défensive, se fasse piéger de la sorte un peu dans la prolongation. Donc pourquoi on vise Tite? C'est qu'est-ce qu'on lui reproche sur ce match-là? Ou sur cette
Déjà
compétition d'ailleurs?
d'avoir perdu la bataille tactique,
Ok.
clairement, de ne pas avoir réajusté ses pièces en cours de match,
D'accord.
de ne pas avoir réagi à temps, aussi de s'être entêté avec certains titulaires. Il y a notamment qu'il y a Rafinha, c'est vrai qu'il n'a pas fait une
Ouais.
très bonne Coupe du Monde, qui est pointé du doigt, donc on ne comprend pas pourquoi Rodrigo, qui a souvent été très bon sur
C'est
ses
vrai.
entrées, n'a pas davantage joué. Également, on estime que ce sélectionneur ne sait pas assez bien lire les matchs et n'a pas finalement instauré suffisamment d'automatisme dans cette équipe.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que on laissait l'inspiration en fait, des attaquants faisait la différence. Il n'y avait pas vraiment de circuit, de passes léchées, d'automatisme dans ce jeu offensif brésilien.
Il faut s'attendre à quoi pour la suite, pour cette Seleção? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent?
C'est la grande question, parce que ce qu'on se dit aussi, c'est que finalement, que s'il y a un problème structurel au Brésil, que cette équipe survole les éliminatoires,
Ouais.
et au final, ça passe plus en Coupe du Monde contre les équipes européennes. Donc il faudrait peut-être se reposer, remettre pas mal de choses en question. Il y a notamment un tabou qui pourrait être levé, c'est est-ce que le Brésil peut être dirigé par un sélectionneur non brésilien? Et là, Globo Esporte, donc il y a un très grand média
Ouais.
brésilien, a fait un sondage en demandant, en demandant aux Brésiliens
Ce qu'ils ont
qui
pensé, ouais.
pourrait prendre la succession de Tite. Et les trois premiers noms, c'était Sampaoli, trois premiers noms proposés. Hein.
Ouais.
Sampaoli qui est entré au Brésil, Pep Guardiola et Jorge Jesus, le Portugais qui avait connu un grand
Oui.
succès avec Flamengo, avec lequel il avait notamment remporté la Copa Libertadores.
D'accord. Eh ben, on suivra ce feuilleton de près, évidemment. On va parler maintenant, Thomas, d'une équipe qui est dans le dernier carré, non sans mal. C'est l'Argentine, après cette qualification incroyable face aux Pays-Bas. La première question, c'est j'ai envie de te demander, comment a vécu l'Argentine ce match? Parce que même nous, en tant que Français et de l'extérieur, c'était un sommet d'émotion, alors j'imagine qu'au pays, ça a dû être encore pire.
Voilà, c'était puissance 1000.
Ouais.
Ils sont passés vraiment tout près d'une immense catastrophe, d'une immense désillusion, parce qu'ils avaient le match en main. Et finalement, mais après, cette victoire au pénalty, ça les fait encore davantage croire en leur destin. Parce que c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a une histoire assez extraordinaire qui est en train de se tisser avec cette première défaite face à l'Arabie Saoudite. Puis après, cette capacité finalement à passer le premier tour. Et là, réussir à passer dans des circonstances extrêmement accidenté.
Ouais.
Donc voilà, le pays croit au destin de cette Argentine pour être pour que la troisième étoile soit inscrite sur le maillot.
Alors, il y a un joueur dans ce storytelling qui prend toute la place, c'est Lionel Messi. Mais il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi et que tu m'as soufflé en off pour ne rien vous cacher. C'est la Diego Maradonisation de Lionel Messi. On va se le dire entre nous, on n'avait jamais vu Lionel Messi dans un tel état, que ce soit au Barça ou avec la sélection. Au dernier numéro, tu nous disais qu'il assumait son rôle de leader. Là, il a été plus argentin qu'argentin dans cette victoire précieuse face au Pays-Bas, enfin, cette qualification en l'occurrence.
C'est vrai, ça a frappé les esprits, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu aussi vindicatif.
Ouais.
Déjà sur le terrain, après son deuxième but, il va chambrer Van Gaal, donc c'est vraiment pas, on va dire, le style de la maison. Après, en conférence de presse, il a une altercation avec un attaquant hollandais.
Ouais.
Voilà, il lui dit pourquoi tu me regardes, espèce d'imbécile, en quelque sorte. Donc on a vu voilà, un leader vindicatif, sanguin. Comme aime l'Argentine, on lui a souvent reproché à Messi de ne pas être ce leader, d'être juste le meilleur joueur sur la pelouse, mais de ne pas être présent des fois dans les moments critiques, et puis aussi de ne pas, voilà, de pas défendre ses coéquipiers, de ne pas hausser la voix, de ne pas hausser le ton. Et là, on a vu un Messi maradonien, après, à l'échelle de Lionel Messi.
Ouais.
À l'échelle de Lionel Messi. Par exemple, son altercation, finalement, dans le... en zone mixte, elle est assez légère. Quoi. L'insulte qu'il emploie, voilà,
Bobo,
sur l'échelle,
oui,
les insultes d'Argentine,
oui,
il y a...
C'est
voilà,
pas la pire.
C'est...
Voilà. On a l'impression aussi que finalement, donc, on parlait de maradonisation, il est en voie de ça, mais il a aussi des partenaires autour de lui qui ajoutent le vice nécessaire à cette équipe. Qu'est-ce qui se dit en Argentine autour de ça? Parce que finalement, c'est inhérent à l'ADN argentin d'avoir un petit peu ce vice. Voilà, les huevos, pour reprendre une expression typique. C'est ça le football argentin aussi. On a une idée très romantique de l'Argentine. Mais finalement, la base du football argentin, c'est surtout beaucoup de testostérone.
Ouais, c'est en tout cas ce qui peut expliquer à quel point ils ont pu avoir autant de joueurs importants dans leur histoire et comment ces joueurs-là, souvent, quand ils arrivent en Europe, finalement, gagnent assez facilement leur place. Quoi. Ils ont un petit supplément d'âme, de caractère, de vice aussi. Ça peut frôler la violence. On a vu l'entrée d'Esteban Paredes, c'est une caricature du pire de ce que peut provoquer
Leandro Paredes. Ouais.
Pardon, oui,
ouais.
De Leandro Paredes. Ouais.
Parce que Esteban Cambiaso, c'était un petit peu plus classe quand même.
Esteban Cambiaso, c'était beaucoup plus classe. Ouais. Et ouais, c'est très argentin. En Argentine, en règle générale, cette force de caractère, on a plutôt aimé, même si ça a failli mal se terminer.
Ouais.
Voilà, les supporters la revendiquent plutôt. Il y a quand même eu quelques éditoriaux assez critiques voilà, qui ont estimé que. Fallait arrêter de se comporter de cette manière. Mais on a aussi beaucoup insisté sur le fait que les Hollandais ont également provoqué, que les Argentins n'ont fait que répondre. Voilà, faut savoir que les Hollandais avaient eu notamment Van Gaal,
ouais.
Des propos un peu désobligeants en conférence de presse. Et c'est vrai que dans la mentalité du football argentin, il faut absolument répondre.
C'est une question d'honneur, en fait, presque, c'est ça ?
Mm-hmm, tout à fait, ouais. Ouais. C'est un mot d'honneur. Bon, c'est un peu une mentalité voilà, un peu machiste. Voilà, on ne peut pas laisser passer une insulte, voilà, une note de mépris. C'est
d'accord.
Qu'on ne peut pas laisser passer. Est-ce que ce qui peut expliquer voilà, ce comportement argentin qui a failli leur coûter très très cher.
Et qu'est-ce qui se dit aussi au pays peut-être sur la perception de cette équipe? On a l'impression qu'elle est encore plus aimée que celle de 2014, alors qu'il y a moins de talent, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a moins de joueurs capés qu'en 2014. Et pour autant... le peuple argentin s'identifie un petit peu plus, notamment parce qu'on vient d'expliquer là, à cette équipe.
Oui, parce qu'au final, cette équipe, elle offre quasiment le maximum de son potentiel.
Ouais.
En 2014, c'était une équipe avec des excellents joueurs, notamment des extraordinaires attaquants. Mmh. On a quand même vu quelques matchs qui étaient des véritables bouillies. Ben, le Pays-Bas-Argentine de 2014, ouais. C'était un voyage au bout de l'ennui. et là, en fait, on a des joueurs moyens, qui ne font pas forcément partie de l'élite mondiale, mais qui donnent tout, qui s'adaptent aussi à un peu toutes les circonstances. Cette équipe, d'un match à l'autre, voilà, elle change pas mal tactiquement. Les joueurs changent aussi d'un match à l'autre, assez souvent. Et tous acceptent ça, finalement. Personne ne se sent comme une vache sacrée. Quoi. Le seul indiscutable, Je caricature, je force un peu le trait, mais le seul indiscutable, ce serait Lionel Messi.
On a l'impression aussi que, alors on en parlait au début de cette compétition, c'était un petit peu le révélateur de la Copa América remportée en 2021, mais que finalement, le match face aux Pays-Bas, potentiellement, cette équipe de l'Argentine aurait pu le perdre s'il n'y avait pas eu cette Copa América. Alors c'est beaucoup de football fiction, mais ça aussi, ça joue. L'Argentine a retrouvé le degré de confiance qu'il habitait en arrivant au Qatar et qu'avait été un petit peu ébranlé par la défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite.
Clairement, je pense que vraiment le monde se serait écroulé sur leurs pieds s'ils n'avaient pas gagné cette Copa América.
Ouais.
De savoir qu'ils sont capables de gagner, forcément, bah, ça aide à croire en son destin. Bon, on l'a vu hier avec la France contre l'Angleterre.
Hein. Ouais, bien sûr.
Voilà, le fait d'avoir gagné t'aide à gagner à nouveau. Et clairement, la mentalité aujourd'hui, enfin, les Argentins croient en leur destin beaucoup plus qu'auparavant.
Alors, arrive la Croatie, on en parlera juste après avec Anna Caro. Est-ce qu'on parle un petit peu de cette équipe croate en Argentine et est-ce qu'on a peur de passer à côté de cette demi-finale, mais surtout de cette finale qui, on ne va pas se cacher, tend les bras malgré tout à l'Argentine qui pensait affronter le Brésil et qui se retrouve face à la Croatie. Il y a une opportunité en or, voilà, un petit peu.
Ouais, je sais pas s'ils ont peur, mais il y a pas d'excès de confiance en tout cas.
D'accord.
Voilà, ils ont assez souffert pour que rien ne sera facile. Voilà, qu'on peut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc cette équipe, ils vont la prendre très au sérieux. Les supporters aussi. Je pense que personne ne se voit forcément déjà en finale.
Ouais.
Même si bon, ils s'estiment quand même un petit peu favoris parce qu'ils sont l'Argentine, double champion du monde, ouais, contre la Croatie qui est certes vice-champion du monde en titre mais qui n'est pas une grande nation dans l'histoire du football.
À quel match il faut s'attendre, enfin, est-ce que on sait absolument, c'est clair comme de l'eau de roche le plan que va présenter la Croatie, à savoir très solide derrière, une maîtrise totale au milieu de terrain. Est-ce que l'Argentine va être plutôt passive et voir ce qui se passe et on peut s'attendre à un match un petit peu ennuyeux, mais très tactique, où l'Argentine va vouloir y aller tuer et pour envahir en tout cas la forteresse croate et réussir à faire le break rapidement.
C'est difficile à prédire.
Ok.
Parce que comme Scaloni, comme je viens de le dire, s'adapte prudent, un peu d'un match à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une partie d'échecs. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer au milieu de terrain. Ce qui est certain aussi, c'est que contrairement au Brésil, on ne va pas se reposer seulement sur l'inspiration des attaquants.
Ouais.
Là, comme contre les Pays-Bas, on a très bien joué dans les couloirs. Nous, on a ciblé vraiment ce secteur de jeu pour faire la différence. Scaloni va essayer de trouver l'endroit pour faire mal à cette équipe croate.
Et ben voilà, vous savez tout de l'Argentine avant cette demi-finale décisive face à la Croatie. Merci beaucoup Thomas, on va parler désormais de l'adversaire de l'Albicéleste, la Croatie avec Anna Caro.
Merci Cyril, à bientôt.
Et allez, on continue ce tour du monde par parler d'une nation qui continue de surprendre et d'être encore invitée dans ce dernier carré, c'est la Croatie. On accueille Anna Caro, que vous connaissez puisque d'habitude, c'est une spécialiste de la Liga, mais qui a un amour secret pour cette sélection au damier. Salut Anna. Comment ils font? Comment fait la Croatie pour être encore en demi-finale? On pensait que 2018 était une formidable exception. Finalement, cette équipe est encore dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est quoi la recette magique?
La recette magique, je pense que là, ça s'est joué beaucoup au mental contre le Brésil. Et c'est l'habitude un peu de la Croatie sur l'ensemble de ses compétitions internationales, finalement. Même à l'Euro, où OK, elle sort en 8e et elle se fait reprendre à la fin par l'Espagne, qui a plus de qualité, il faut le dire. Là, c'est... En fait, ils le savaient. Ils le savaient que sur le plan technique, ils ne pouvaient pas gagner. Parce que bah, quand on a 4 attaquants comme ceux du Brésil, c'est impossible de gagner. Mais ils savaient aussi que leur point fort à eux, la Croatie, c'était le mental.
Ouais.
Et que c'était un peu aussi le point faible du Brésil. Et que si jamais ils arrivaient à faire douter l'équipe brésilienne, ce qu'ils ont fini par faire. Parce qu'à la fin, on voit que le Brésil n'arrive plus en fait, à combiner ensemble. Voilà, derrière Dalic, il le dit, en zone mixte, il dit, une fois qu'on a emmené le match au tir au but, on savait que c'était pour nous. Il savait, parce que c'est la même formule, c'était celle-là aussi qui les avait amenés jusqu'en finale de la Coupe du Monde en 2018. Donc c'est ça, en fait, c'est ça le plus impressionnant, c'est qu'on a un état d'esprit exceptionnel,
ouais,
et qui ne dure pas que sur la Coupe du Monde 2018, qui semble être quelque chose d'ancré finalement dans la sélection.
Ce qui est fou, c'est ce que tu dis, cette tendance à aller jusqu'aux prolongations. Faut se dire que la Croatie n'a plus perdu un match à élimination directe en 90 minutes depuis 1998. Ouais. C'est-à-dire que c'est une sélection qui, bon, entre 98 et 2018, ne passait pas tout le temps les poules en Coupe du Monde. En revanche, depuis 2018, c'est une équipe qui s'est rivalisée dans tous les domaines du jeu, peut-être pas offensivement, puisqu'il y a quand même un petit creux de génération. Malgré tout, c'est une sélection qui arrive toujours à pousser les autres dans leur retranchement. C'est ça la recette aussi, c'est comme ça qu'ils vont aborder leur demi-finale face à l'Argentine. Le but du jeu, ce sera de résister au mieux, d'avoir la maîtrise au milieu avec ce trio absolument magique dont on reparlera, et peut-être d'aller encore pousser plus loin cette équipe argentine.
Oui, je pense qu'il y a eu un déclic dans cette équipe croate, et donc une partie de la génération qui est encore là aujourd'hui. À l'Euro 2016, quand ils se font éliminer contre le Portugal en prolongation, c'était un vrai coup dur, parce que l'Euro 2016, c'était, en tout cas pour beaucoup de Croates, le pic générationnel avec les meilleurs joueurs. Enfin, on avait encore Modric à l'époque, mais on avait Mandzukic, on avait Dario Serna, on avait Ciorluka derrière, Tsubasic qui était encore dans les cages. Oui. Donc en fait, on avait une équipe qui était un peu au sommet, et de les voir se faire éliminer un peu sur un non-match, on va dire, du Portugal, je pense que ça a vraiment laissé des traces.
D'accord.
Et l'entraîneur de l'époque n'est plus là. Mmh. Le sélectionneur de l'époque était Ante Šašić. Il est parti, et derrière, il y a eu besoin d'un nouveau souffle. Et en fait, on a un peu plus laissé les clés de la sélection dans les mains de Modric, ouais, ce qui était déjà un peu beaucoup le cas avant, mais il y avait encore des Rakitic, Mandžukić, etc., qui étaient très importants pour la sélection. Au fur et à mesure, on en a eu de moins en moins. Rakitic est parti en 2018. Et donc maintenant, c'est Modric et cet état d'esprit qui lui est propre aussi. Parce que si on regarde les matchs du Real, c'est très souvent lui qui relance l'équipe, même à 37 ans et avec tous les kilomètres parcourus. S'il faut relancer l'équipe à la 101e minute, c'est lui qui est là, c'est lui qui va donner l'exemple. Même si là, contre le Brésil, il est quand même sorti un peu avant parce qu'il était cramé.
Sûr, il commence à être fatigué. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu nous racontes. On a parlé dans ce Tour du Monde à toutes les émissions de Génération Dorée, pour la Belgique, pour le Portugal aussi potentiellement. Tu nous dis que la Génération Dorée, c'était plutôt 2016 pour la Croatie. Malgré tout, on est en 2022, ils sont en demi-finale. Et qu'on le veuille ou non, sur leur banc, c'est pas déconnant, il y a quand même un joueur comme Lovro Majer. Enfin, il y a quand même une réserve. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment ce pays de moins de 4 millions d'habitants réussit à former autant de bons joueurs. C'est pas, peut-être pas des cracks au niveau international, hormis Modric. Oui. En revanche, il y a un niveau moyen très élevé. Comment on explique ça? Il y a une formation particulière?
On doit évidemment beaucoup à la formation du Dynamo Zagreb. Hein. Ouais. C'est la meilleure équipe du pays et c'est surtout de très très loin le meilleur centre de formation du pays, et c'est une réputation qui va bien au-delà même des frontières, parce que si on prend le cas de Daniel Mo par exemple, lui avait fait le choix de s'exporter là-bas au Dynamo Zagreb en sachant qu'en étant milieu de terrain, il serait bien formé, et c'était un choix payant. Donc en fait, déjà au niveau des milieux de terrain, c'est ultra prolifique. Après, bon, il y a quelques domaines où c'est plus compliqué, mais ils arrivent toujours à sortir au moins un joueur qui est pas trop mauvais, on va dire. Si on prend Dominik Livaković, par exemple, qui fait une Coupe du Monde extraordinaire, ceux qui suivent le Dynamo Zagreb sont presque surpris du niveau. Parce qu'en fait, il n'est jamais à ce niveau, en tout cas de constance, sur le championnat. Donc on a cette formation qui est complète. Si on regarde les formateurs, ceux qui dirigent cette académie du Dynamo Zagreb, ils le disent en fait très vite, les jeunes, dès les U14, U15, ils sont confrontés aux meilleurs d'Europe. Okay. Ils sont dans les Ligues des Champions, les tournois contre le Barça, City, le Real, etc. Okay. Donc en fait, ils ont cette habitude des gros matchs à intensité. Et c'est aussi quelque chose de mental finalement, parce qu'ils savent que les joueurs qu'ils ont en face, place, ils les ont peut-être battus chez les U15, chez les U16, les U17. Donc ils disent bah pourquoi on pourrait pas réussir maintenant chez les A. Donc il y a ça, il y a aussi l'état d'esprit qui fait qu'on a des joueurs qui se transcendent en enfilant le maillot croate, parce que Kramaric par exemple, il est sur ses dernières saisons, elles sont compliquées à Hoffenheim, mais là son début de Coupe du Monde, bah c'est incroyable, surtout sa phase de poule finalement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ces deux facteurs là qui expliquent tout ça.
Tu nous as parlé de Luka Modric. Comment ne pas l'évoquer, c'est un plaisir, une beauté de le voir jouer sur un terrain. Je vais même ajouter quand même à ses côtés Brozovic qui est absolument incroyable et Kovacic qui dans le genre fluidité corporelle est plutôt très joli à voir jouer aussi. Là aussi, comment on explique que ce milieu de terrain, c'est presque, j'ai envie de dire, si on regarde le dernier carré, c'est presque le meilleur milieu de terrain, en tout cas le plus complet des derniers qualifiés en demi-finale.
Oui, là je pense que oui, quand on voit en plus le milieu de terrain de la France qui avait l'habitude d'être là, mais qui a été un peu décimé, oui je pense que c'est le meilleur actuellement. En fait, ça fait des années que ces joueurs-là jouent ensemble. Ouais. Donc c'est aussi la clé, c'est-à-dire que la Croatie a eu beaucoup de chance en démarrant ce mondial de n'avoir aucun blessé. Et ça c'est quelque chose que très peu de sélections ont, parce que même si on prend le cas de l'Argentine qui a très peu de blessés, ils ont Lo Celso qui était un peu le métronome de cette équipe qui est absent. Là la Croatie joue avec toutes ses armes, et si on regarde en fait ce trio là, Modric, son début de Coupe du Monde n'est pas terrible, mais si on prend les deux autres à ses côtés, Kovacic et Brozovic, c'est la même chose. Brozovic il passe totalement à côté de son premier match contre le Maroc, il se fait complètement oublier contre Amrabat. Mais en fait, ce qu'avait dit Modric en début de Coupe du Monde, c'est qu'en fait, la Croatie, c'est une équipe de compète. Ouais. Ils sont souvent très nuls sur les matchs amicaux. Oui. Il faut le dire, là, c'est quasiment un exploit qu'ils finissent dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Mais d'habitude, c'est plutôt au fond de la poule en Ligue des Nations. Et Modric avait dit en début de tournoi, nous, de toute façon, on est une équipe qui va monter en puissance. Et finalement, les faits lui donnent totalement raison. Et lui-même est monté en puissance. Ce qu'on a moins vu sur les premiers matchs, c'est cette capacité à se projeter, etc. Mais sur les premiers matchs, il avait beaucoup de lacunes à couvrir de la part de ses latéraux notamment. Et Lovren qui n'était pas totalement rentré dans sa compétition. Donc on a Modric qui est monté en puissance, mais derrière on a aussi Brozovic qui fait un très très gros match contre le Brésil, alors qu'il n'était pas invisible, mais il était... pas encore à 100% de ses capacités sur les premiers matchs. Et puis Kovacic, c'est un peu le facteur X de ce milieu de terrain, il faut le dire. Il a des hauts et des bas en sélection.
Et quand il est haut, il est très haut quand même.
C'est ça. Quand il est arrivé très très jeune en sélection, il a vécu toutes les épopées. Donc en fait, lui aussi, il a ce mental d'acier. Il a l'habitude de jouer à côté des deux-là. Et puis finalement, là, on le voit, il était dans les bonnes conditions contre le Brésil et tout s'est très bien passé.
Bon, et dernière question, on est obligé de parler de ça parce qu'en 2018, il y avait eu des séances de tir au but tout le temps. On a l'impression que c'est exactement la même recette en 2022. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de très spécifique à la Croatie où j'imagine que, vu ce qui s'est passé en 2018, ils ont une confiance incroyable au moment où les tirs au but arrivent et qu'ils se disent « bon, bah, ça, on sait faire, on maîtrise et on connaît nos qualités ». C'est juste ça ?
C'est juste ça. On a souvent tendance à dire que c'est une loterie. Et là, on voit que la Croatie a réussi toutes ses séances de pénalty en Coupe du Monde. C'est pas une loterie. Je pense qu'il y a un peu d'exercice, quand même, il faut le dire. Mais il y a surtout beaucoup de confiance. Et la confiance, elle vient d'abord du gardien. Parce que Livakovic, lui aussi, c'est un peu le facteur déterminant de cette Croatie. Parce que si on regarde certains matchs, notamment un match contre la France il y a quelques années, il fait un match parfait, mais il finit par craquer sur une erreur bête à la 80e et il encaisse. Et en fait, là, pour l'instant, on ne l'a pas vu faire ce genre d'erreur-là. Il est dans une confiance absolue. Et donc, quand on commence une séance de pénalty avec un arrêt du gardien, évidemment, ça rend les choses plus simples. Ce qui est beau aussi de voir, c'est que dans les séances de tir au but, les jeunes portent leurs responsabilités. À chaque fois, c'est Vlašić qui a commencé et qui a à chaque fois réussi en mettant une grosse mine. Donc en fait, on voit que c'est un sentiment qui est lié à l'équipe Et d'ailleurs, petite anecdote, on ne sait toujours pas qui est le cinquième tireur de la Croatie.
C'est vrai.
Parce qu'il n'y en a que quatre qui se sont présentés à chaque fois. Donc voilà, les paris sont ouverts.
Bon, alors on verra si cette demi-finale face à l'Argentine ira au tir au but. L'Argentine qui s'est qualifiée, elle aussi, au tir au but grâce à un grand Dibu Martinez. Donc ça peut être un sacré duel.
Ça va être un beau duel.
Dans cette demi-finale. Et nous, on va parler désormais de l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale, le Maroc. Et allez, on termine ce tour du monde par parler du Maroc, évidemment, la grande sensation de cette Coupe du Monde. On accueille Elton Mokolo, qui a suivi ce mondial de A à Z. Comment ça va, Elton, après ces quarts de finale franchement animés?
Bonjour Cyril, ça va vraiment très bien déjà parce que dans un premier temps l'équipe de France est en demi-finale et on ne va sûrement pas bouder notre plaisir parce que ça fait quand même deux demi-finales de suite. Mais ensuite sur le regard général de la Coupe du Monde et surtout par rapport aux quarts de finale, c'était riche en émotions. Aussi bien avec les prolongations, les séances de tir au but et avec les matchs de l'équipe de France, avec la saveur particulière qu'avait cette rencontre face à l'Angleterre.
Alors, tu as utilisé le mot d'émotion. On va être complètement là-dedans mercredi avec cette demi-finale, pardon, complètement inattendue, on va se le dire, France-Maroc. Comment tu nous expliques que cette équipe du Maroc soit arrivée jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde ?
Sincèrement, mon cher Cyril, si tu m'expliques au mois de janvier 2022 que le Maroc va faire demi-finale de Coupe du Monde et pas demi-finale de Cannes, je ne te crois absolument pas. Ça met d'autant plus de mérite sur la performance marocaine parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont changé d'entraîneur. C'était Vahid Ayaouzic qui était le coach du Maroc. Regragui arrive très tardivement.
Absolument.
On n'est pas sur la préparation de team, si tu veux, on est sur la préparation d'une équipe qui arrive à la dernière minute. On a un entraîneur qui a des convictions et qui a surtout apporté cette capacité de leadership, cette idée de faire croire au Maroc qu'on n'était pas là juste pour faire de la figuration, là pour faire une grande performance.
Alors, on a eu des physionomies de match finalement presque similaires face à l'Espagne et face au Portugal. Encore que l'Espagne a beaucoup plus eu le ballon que le Portugal et savait un petit peu plus quoi en faire jusqu'aux 30 derniers mètres. Il y a quand même quelque chose qui ressort de cette équipe, c'est impossible de lui mettre un but. Alors, comment faire pour mettre en échec cette défense qui n'a concédé qu'un seul but dans ce mondial, un CSC face au Canada, et qui a laissé muet la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal?
Cyril, le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde en ayant une moyenne de tir cadré de 1,51.
Ouais, c'est ça. Là. Ouais,
on arrive en demi-finale de Coupe du Monde. Donc, ça met beaucoup de relief sur la performance défensive marocaine parce que c'est très compliqué, parce que c'est pas tout de capitaliser sur une animation défensive. Non, c'est surtout l'idée de faire déjouer l'équipe adverse. Et on est quand même sur des équipes qui étaient fortement bien outillées, notamment le Portugal avec sa ligne d'attaque qui, à la fin, était complètement folle et avec une défense marocaine qui était sérieusement amoindri. Je veux dire, par là, il manquait quand même 3 des 4 défenseurs habituels de la sélection marocaine. Saïs, bien évidemment, en tant que capitaine, Naïf Aguerd et Mazraoui.
Ouais.
On a vu El Yamik de Valladolid. Tout ça pour dire que du côté du Maroc, indépendamment des hommes, bon, même si on a dans l'idée qu'il va quand même falloir retrouver les titulaires, on est capable de capitaliser sur une assise défensive et sur une assise collective.
Comment vont faire les Bleus pour ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombées toutes ces équipes qu'on vient d'évoquer? Comment faire pour tactiquement embêter cette équipe du Maroc?
Le Maroc est une équipe qui est très mature tactiquement. Ouais. J'insiste là-dessus, une équipe qui est très mature tactiquement parce qu'il est capable de répondre à tous les défis footballistiques proposés. On a vu l'Espagne avait la volonté de faire mal entre les lignes et le Maroc a réussi à faire déjouer ça. On a vu le Portugal qui a cherché notamment à exploiter la profondeur face au bloc médian marocain. Le Maroc a su répondre à cette problématique-là. Ouais. Après, du côté de l'équipe de France, je pense qu'on va analyser ça très sérieusement parce que déjà, on est sur une demi-finale de Coupe du Monde. L'équipe de France a les capacités pour faire mal au Maroc avec une qualité individuelle qui est quand même au-dessus notamment des autres équipes.
Ce sera qui le joueur clé? Alors il va y avoir, on a parlé du duel Walker-Mbappé, le duel entre meilleurs amis Mbappé-Hakimi vaudra son pesant d'or. Est-ce que la clé du match, c'est pas ailleurs? Là aussi, peut-être la relation Giroud-Griezmann ou le rôle de Griezmann peut-être un peu plus entre les lignes pour embêter Amrabat au maximum. C'est quel joueur sera le plus décisif ou le plus important pour Deschamps?
Pour faire un petit retour en arrière sur la performance de l'équipe de France, ça a été quand même un révélateur. On parlait beaucoup du duel Mbappé-Walker. On a vu que les clés tactiques résidaient autre part. Donc l'équipe de France et c'est sa force depuis X années, est capable justement d'attaquer de manière diversifiée. On peut avoir les montées d'Antoine Griezmann, on peut avoir maintenant les débordements d'Ousmane Dembélé, on peut avoir les arrivées en seconde ligne d'Adrien Rabiot. Donc moi, je pense que ça peut justement faire que l'équipe de France soit imprévisible face au Maroc et propose notamment un défi footballistique qui est déjà beaucoup plus étoffé que les autres équipes.
Cette histoire de la sélection marocaine, elle est incroyable. Tu parlais de Regragui. Il y a aussi quelque chose chez ces Marocains qui est caractéristique de leur jeu. C'est, on vient de passer plusieurs minutes à parler de la défense. Ça ressort les ballons, mais d'une propreté, c'est absolument exceptionnel. Alors, il y a les performances au milieu de Amrabat et de Ounahi qui sont toujours plus bluffantes. Il y a Boufal et Ziyech pour faire mal sur les côtés. Il faut s'attendre aussi à ça face aux Bleus, où ça va être peut-être aussi une clé tactique à travailler de Didier Deschamps, d'empêcher ces sorties de balles qui font toujours très mal.
Ça va être un élément qui est capital, parce qu'on parle beaucoup de l'assist défensive marocaine, mais le Maroc est une équipe qui exploite bien le ballon, qui est capable justement d'arriver rapidement dans le camp adverse. Je rappelle quand même que sur le but face au Portugal, le but d'Enesiri arrive après 15 passes, parce que les Espagnols étaient un peu chafouins, notamment par rapport à la performance marocaine avec ballon. On a vu que Maroc, justement, était capable d'aspirer dans un premier temps le pressing portugais pour avoir ces fameuses transitions. Et en ce sens, d'ailleurs, Regragui a fait l'évocation hier, mais moi, je le disais déjà depuis le début de la compétition, ce Maroc-là me fait penser à l'Atlético 2014-2016, une équipe qui... bien évidemment capitalisé sur une assise défensive, mais qui à côté de ça, dans sa capacité, à aspirer l'adversaire et à offrir des transitions à ses offensives, est une équipe qui est extrêmement bien rodée. Tu peux compter sur un Bounou qui est habitué notamment du côté de Séville à initier le jeu balle au pied. T'as Mazraoui sur le côté gauche, t'as Hakimi sur le côté droit qui est fiable, t'as Saïs et Aguerd quand ils sont présents, qui sont capables justement de bien relancer. Amrabat aussi, parce que Amrabat, on en parle beaucoup,
par rapport à son abattage
défensif, mais il faut pas oublier que face à l'Espagne, c'était lui qui initiait la relance. Donc tu as tous les ingrédients du côté marocain pour aspirer ce fameux pressing. Maintenant, c'est que du côté de l'équipe de France, on est davantage sur un bloc médian, de manière à ne pas avoir ces fameuses transitions défensives. Ouais. Donc ça va être très intéressant de voir comment le Maroc, avec ses forces vives, va réussir justement à faire déjouer le bloc français quand il aura le ballon.
On a beaucoup parlé tactique. Il y a aussi une donnée très importante qui va rentrer en jeu. C'est la donnée... c'est dans la tête, la donnée mentale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, peut-être pour le Maroc, d'être arrivé au bout du chemin ? C'est-à-dire qu'on le sait, ça fait, c'était inédit. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale de Coupe du Monde. C'était un peu l'objectif fixé par toutes les sélections africaines qui avaient de l'ambition au Qatar. Est-ce que ces Marocains-là peuvent être guettés par un certain symptôme de... on est arrivé, on a fait ce qu'il fallait, maintenant c'est que du bonus.
Moi, je pense que c'est une constante depuis la Belgique, où c'est la victoire qui lance tout pour moi du côté du Maroc, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils vont faire quelque chose de grand. Ils ont déjà fait quelque chose de grand, mais ce qui ressort notamment des déclarations de Regragui, c'est qu'on n'est pas là pour faire juste un exploit, on est là pour faire quelque chose de grand, et on ne se fixe pas de limites. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça pourrait faire déjouer justement le Maroc, c'est le caractère émotionnel que revêt un France-Maroc. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, à savoir que c'est un match qui est particulier pour certains des joueurs marocains. Donc par rapport à ça, il pourrait être déjoué, il pourrait être un peu respectueux. Mais maintenant, sur le volet de la performance, le Maroc, et d'ailleurs c'est un comportement qui est quand même à saluer, a toujours été convaincu qu'il était là pour faire quelque chose de grand, et qu'à chaque fois qu'il est arrivé sur un terrain, ils n'ont pas voulu parler d'exploit. Ils ont rejeté notamment ce mot exploit, parce qu'ils se disent de manière très rationnelle, on a des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, à l'instar d'Hakimi, à l'instar de Mazraoui. Bounou était quand même le meilleur gardien de la Liga la saison dernière, donc on a les éléments pour faire mal aux équipes adverses, et ensuite on a des joueurs qui sont capables de se sublimer avec le maillot marocain. On rappelle quand même que Enesiri, qui avait marqué 0 but en Liga avec cette saison, est déjà 2 buts en Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ce maillot marocain permet à certains joueurs d'être transcendés.
Dernier petit mot, parce que tu les suis aussi à l'année, Boufal, Ounahi, c'est absolument incroyable. Ce n'est pas les mêmes joueurs qu'on voit chaque week-end à Angers. Alors, on connaît les qualités des deux. Sofiane Boufal, on sait que c'est un des meilleurs dribbleurs au monde facilement, entre guillemets. Mais là, sur cette Coupe du Monde, ils ont atteint un niveau inespéré.
C'est des joueurs qui sont impactés justement par l'environnement marocain. Alors évidemment, Angers est dans une situation compliquée. D'ailleurs, ils sont sur le point de licencier leur entraîneur. Et donc, par rapport à ça, ces joueurs-là, ils en pâtissent. Mais maintenant, sous le maillot marocain, Boufal, il ne faut pas oublier que déjà, pour moi, ça avait été le meilleur marocain sur la CAN 2022. Ouais. Et j'ai toujours pas compris sa sortie face à l'Égypte en quart de finale. Ounahi, c'est vraiment l'explosion, parce que Il avait déjà eu une performance qui était quand même colossale à l'occasion du barrage retour face à la République démocratique du Congo. Il avait été extraordinaire. Il avait connu un début de mondial timide. Après, ça s'explique par le fait que c'était son premier mondial. Et là, il est monté en puissance. Ce qui est quand même symbolique parce qu'on parle d'un joueur qui réussit mieux les matchs de fin de compétition plutôt que début de compétition. Ça vous classe le niveau d'un joueur. Donc, tout ça pour dire que ces joueurs d'Angers qu'on voit régulièrement ont encore passé un cap avec le maillot marocain.
Et on doit se frotter les mains probablement à la comptabilité du SCO d'Angers parce que là, la valeur marchande de ces deux joueurs a évidemment grimpé. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Elton, c'est la fin de ce Tour du Monde. Rendez-vous mardi et mercredi, évidemment, sur eurosport.fr pour suivre ces deux demi-finales de la Coupe du Monde. Et nous, on vous laisse avec le FC Stream Team. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.